Voilà, donc une émission tout à fait spéciale puisque c'est la première émission du Régime été. Que dire d'autre? On aura deux sujets dans cette émission. Un sujet été, c'est-à-dire une rediffusion qui n'en est pas vraiment une dans le sens où c'est l'émission zéro d'Alter Echo, c'est-à-dire qu'avant d'accéder aux ondes de Radio Campus et d'autres radios d'ailleurs, chaque proposition d'émission doit faire une émission zéro qui est un peu un brouillon de ce que sera l'émission réelle. Et ça dure un peu moins longtemps, c'est en l'occurrence une demi-heure. C'est d'ailleurs tout à fait charmant de retrouver cette époque bénie de l'été 2000 où le fait n'était pas encore accompli, c'est-à-dire que George Bush n'était pas encore élu, c'était encore en plein dans la campagne électorale américaine avec les conventions. Le principe de la convention sera d'ailleurs expliqué dans ce fameux numéro zéro. Il y a d'autres sujets qui sont l'apparition de Pour lire Palud de Pierre Carle et puis une explication de la notion de temps des concombres dans la presse qui correspond grosso modo à la période de l'été où il ne se passe pas grand-chose à part un mondial par-ci, un Tour de France par-là
Là,
et.
tu dévoiles déjà toute une partie
Exact, je vais me taire.
de
Et puis dans la
l'avenir.
deuxième partie de l'émission, vu que la première partie ne fera qu'environ une demi-heure, c'est les deux Nicolas qui ont bondi cette semaine sur un
On
article
a
du soir.
rebondi sur un article du soir, ouais, qui revient sur le sujet brûlant dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de l'implantation d'un grand complexe commercial à XL, au bord de l'avenue de la Toison d'Or, complexe appelé Héron City.
On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans
Devenu
l'émission.
maintenant Héron Plaza.
Héron Plaza est confirmé, c'est-à-dire le projet qui était en négociation va voir
Malgré
le
tout ce qu'ont
jour. pu revendiquer les squatteurs de la rue des Chevaliers, de
Notamment les
la rue des
squatteurs,
Drapiers,
ouais,
avec
les.
tragédie à l'appui, notamment au moment où le squat de la rue des Chevaliers avait brûlé. Retrouvez tout ça dans les archives d'Alter Echo sur le site www.collectifaupluriel.net/alterecho en un seul mot et avec CH. J'ai oublié de vous dire aussi qu'Alter Echo, mais vous le savez, c'est le mercredi soir en direct à 10h sur Radio Campus 107.2. Rediffusion à 14h le vendredi, toujours sur Radio Campus 107.2. Pour l'été, exceptionnellement, pendant ces 3 mois d'été, il n'y aura pas de rediffusion sur Radio Panique, hélas, hélas. Et ben, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Je crois que je vais tout simplement lancer l'émission zéro. Au moins, vous avez le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Avant la lettre d'Alter Echo, l'émission qui 3 points de suspension, remplissez les blancs et je ramasserai les copies en fin d'émission. Au micro Olivier et à la technique Nathalie. Au sommaire de cette émission, un sujet sur la culture du concombre sous tous ses aspects. Une grande page consacrée à la campagne présidentielle aux États-Unis, avec tout ce que nos médias ont dit et pas dit, montré et pas montré. Et enfin, nous ferons la connaissance d'un petit mensuel qui démarre à peu près en même temps que cette émission et qui a le même objectif, c'est-à-dire de montrer aux gens que les médias, enfin les autres médias, les prennent pour des cons. Ce sera l'occasion pour certains de faire la connaissance de Pierre Carle, dont nous aurons souvent l'occasion de vous reparler. Nous sommes donc là pour parler de la presse et des médias en général et surtout pour les critiquer et raconter tout ce qui a manqué dans la presse de la semaine. En ce moment, c'est l'été, donc c'est facile, il ne se passe pas grand-chose. Les journaux écrivent des conneries sur n'importe quoi, le JT ouvre sur le sport ou sur des activités bien sympathiques à faire en famille. Traditionnellement, la presse flamande appelle cette époque le Komkommertijd, le temps des concombres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'est pas du tout impensable de trouver en bonne place dans votre quotidien un article sur la culture du concombre et son grand succès ou ses terribles déboires selon le temps qu'il fait. Justement, tout au long du mois de juillet, la météo exécrable a rendu un grand service à l'industrie de l'information. Les foudres et la morosité du ciel ont fait l'objet de nombreuses analyses inspirées, statistiques à l'appui. Les plus hardis ont même tenté des spéculations sur l'impact psychologique que pourrait avoir cette désolation sur le moral de la nation. Évidemment, les exploitants de l'Horeca de la Côte et des Ardennes ont bénéficié d'une sollicitude toute particulière, mais ce n'est pas neuf, on s'y intéresse chaque année. Enfin, on ne va pas cracher dans la soupe que celui qui ne s'est pas plaint de la météo en juillet jette le premier concombre. Gardons notre salive pour des sujets plus brûlants. Pour les élections communales, par exemple, qui auront lieu début octobre, nous aurons largement l'occasion de commenter ce que la presse fait à ce sujet-là. Justement, en première page de la Libre Belgique ce week-end, on nous apprenait que c'était dans 50 jours et que la campagne n'a pas encore vraiment démarré. Voilà un sujet bien digne de figurer en première page et aussi en page 3 et 5, où on n'apprend pas grand-chose non plus, puisqu'il n'y a effectivement rien à savoir. Un grand merci donc à la Libre Belgique d'illustrer si gentiment le concept du temps des concombres. Le soir n'est pas en reste sur l'absence d'actualité politique. Quand on a une page politique à remplir et qu'il ne se passe strictement rien, c'est toujours ennuyeux. On trouve donc en page 4 un article sur les universités d'été des partis politiques qui n'ont pas encore eu lieu. En gros, on nous en donne le programme et les thèmes. À noter que cet article est écrit par un stagiaire, sans doute un étudiant de l'ULB, envoyé peler des concombres au soir par ce bon vieux monsieur Nobre. C'est fou ça, on envoie les étudiants en journalisme faire leurs premières armes pendant les vacances quand il ne se passe rien, et on s'étonne après, quand ils sont devenus professionnels, qu'ils ne nous servent que du vide. Mieux vaudrait les envoyer tout de suite au Kosovo ou en Tchétchénie, plus aucun concombre à ramasser de ce côté-là.
Ma mère, pourquoi m'as-tu pondu? J'étais comme un prince dans ton ventre pansu. J'ai eu ton cul comme dernière porte. Et maintenant, il faut que je m'en sorte. Ma mère, je n'ai pas demandé de me sentir coupable d'avoir une Lada Samara, d'avoir le JT à 19h30, de voir des hommes devenir de la viande. Ma mère, je regarde le monde. Oh, tous ces moutons qui attendent qu'on les tonde. Tu m'as dit d'être fier, d'avoir des couilles. J'aurais tant voulu être un petit lapin, une grenouille. Ma mère, ne me demande pas de repeupler la terre avec mes petits gars, de recouvrir le globe avec des futurs tarés de ta famille. Je crois que je suis le dernier. Alors, pardonne-moi donc de me réfugier dans la masturbation ou dans la baise en capote et pilule. J'en suis fier, je tue que quand j'éjacule.
Dans ce paysage cucurbitacé bien ennuyeux, un des grands sujets de la semaine a été les élections américaines. Pour être précis, on est encore loin des élections présidentielles à proprement parler. Ce qui vient de se dérouler sous les monocles des caméras, ce sont les conventions, c'est-à-dire les deux grands messes des deux partis uniques américains. Ces grosses cérémonies pompeuses et tout en paillettes et confettis servent en fait à désigner le candidat officiel de chacun des partis à la présidence des États-Unis, alors qu'en fait ces deux candidats étaient déjà désignés avant. Mais alors, à quoi ça sert vraiment? D'une part, à mobiliser des deux côtés les troupes de militants et surtout de généreux donateurs, et d'autre part, à fournir à l'industrie des médias, qu'elle soit américaine ou étrangère, de quoi détrôner les concombres dans leurs gros titres. Parce que vraiment, ça ne sert pas à plus que ça. Des idées, des programmes, il n'y en a pas ou peu. Quant aux promesses électorales, le gagnant se torchera le cul avec, comme tous les autres l'ont fait avant lui. Il faudrait être bien con pour s'en étonner après coup. Et même si on ne connaît pas encore le vainqueur, le résultat est de toute façon couru d'avance. Ce sera celui qui aura réussi à ratisser la plus grosse montagne de pognon pour financer sa campagne qui s'installera à la Maison Blanche. Tout le reste n'est que poudre aux yeux, justement la substance dont se nourrissent les médias. Pourtant, même si c'est un non-événement, il mérite qu'on s'y intéresse parce qu'il y a énormément de choses à en dire, mais chaque chose en son temps. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qu'on a entendu? Tout d'abord, la convention du Parti démocrate, le parti qui est censé incarner la gauche en Amérique, mais il faut le dire vite pour ne pas pouffer de rire avant la fin de la phrase. L'enjeu de la semaine était de faire passer pour Al Gore, de faire passer Al Gore pour un candidat sérieux, mais surtout sympa à la fois. C'est bien ce côté-là qui lui manque au pauvre Gore. Il a un problème d'image, comme l'a très bien dit cette Américaine dont j'ai oublié le nom et la fonction. Elle a dit, il a un problème d'image et ce problème s'appelle Al Gore. Les épithètes dont on l'affuble ne sont pas toujours flatteurs. Avec son physique ripolliné, j'ai entendu dire ce week-end à la BBC que c'était un homme de bois et même un androïde. Bien vu ça, c'est vrai que quand on le voit avec ce visage mécanique et ses mimiques étudiées, on s'attend à tout moment à le voir ouvrir une petite trappe dans son costard pour se reprogrammer, comme dans certains feuilletons des années 70. Bref, le pauvre homme avait un capital sympathie à construire, mais il ne fallait pas l'avouer. La phrase que tous les journaux ont relevée, c'est la présidence n'est pas un concours de popularité. C'est bien rigolo, ça fait très fort penser à la phrase de Magritte, qui est d'ailleurs ensuite devenue la devise de Clinton, ceci n'est pas une pipe. Alors que toute la convention a pour seul but de faire passer Gore pour un type sympa et familial, un type à qui vous confieriez vos économies et avec qui vous iriez boire des chopes, l'acteur principal vient nous dire que ce n'est pas un concours de popularité. Mais qu'est-ce qu'on a vu pendant cette convention? On a vu d'abord le chauffage de la salle. Il y avait sur scène un talk show sur Al Gore avec des amis qui venaient dire combien il était génial. On a vu sa femme aussi qui chauffait la salle en secouant vigoureusement son beau tailleur bleu avec tout ce qu'il contenait. Elle se trémoussait comme une tarée avec plein de sourires et de pouces levés et elle avait l'air aussi tarte que Hillary. On a vu ensuite l'attraction que tout le monde attendait, Al Gore himself, qui est venu rouler une grosse pelle à sa tarte dès qu'il est monté sur scène. Il a aussi enlacé son colistier, Joe Lieberman. On aurait dit que c'était au premier qui étranglerait l'autre. On pourrait continuer encore longtemps, mais ça deviendrait chiant. En un mot, c'était lamentable, mais ça n'avait rien, absolument rien à voir avec un concours de popularité. Le message de Gore, c'était plutôt « Bon, je sais, je suis un mec un peu chiant, mais au moins je connais mes dossiers. » Et j'ai des idées. Dans le soir, Nathalie Mathieu est assez d'accord avec lui. Elle lui trouve même un nouveau ton militant, comme elle dit. La preuve, il veut une assurance santé pour tout le monde. Il me semble que Clinton l'avait promis il y a 8 ans, mais bon. Il promet une réduction d'impôts mieux foutue que celle que propose Bush. Vachement militant. Il veut réduire la criminalité en recrutant davantage de policiers. Ça aussi, c'est militant, dans un certain sens. Par contre, il s'est engagé à protéger le choix des femmes, comprenez le droit à l'avortement. De toute la convention, c'est la seule idée où il se situe vraiment en rupture avec les républicains. Et il aura fallu 4 jours de confettis, de pouces levés et d'argent jeté pour en arriver là.
My name is a number of
Si Al Gore a l'air d'un con, George W. Bush fait encore bien pire. Il avoue être con. Il a déjà été piégé plusieurs fois dans des interviews sur des questions diverses auxquelles il était incapable de répondre. Comme le relevait Charlie Hebdo la semaine dernière, je cite, Pour lui, les habitants de la Grèce sont les Grétiens, la Slovénie et la Slovaquie ne font qu'un. Et quand il y a des mots trop compliqués dans son discours, comme nucléaire, on les lui épelle phonétiquement et en grosses lettres majuscules sur son prompteur. Nuc-clé-r. Fin de citation. Mais pas de problème, George W. répète que ce n'est pas si grave s'il est con parce qu'il est très doué pour s'entourer de gens intelligents. Du coup, on se demande pourquoi c'est lui qui doit se présenter. Il pourrait tout à fait laisser la place suprême à des gens plus intelligents que lui. Deux réponses. D'abord, il s'agit bel et bien d'un concours de popularité. Apparemment, dans un pays de beauf comme les États-Unis, un type comme Bush peut être populaire. Deuxièmement et surtout, c'est lui qui se présente parce qu'il est le fils de son père et en politique américaine, ça compte. Voilà une première chose que les journaux ont omis de relever. Cette élection sera plus que jamais le combat des fils à papa. À ma gauche, Albert Gore, fils d'Albert Gore, ancien sénateur dont l'ambition jamais réalisée était, devinez quoi, de devenir président des États-Unis. À ma droite, George Bush, fils de George Bush, ancien président des États-Unis, ancien directeur de la CIA. Un de ces deux hommes sera président, mais pour le perdant, pas de problème. Le fils de Gore s'appelle Albert, comme papa et grand-papa. Quant à Bush, il a un neveu qui s'appelle George, comme tonton et grand-papa. L'avenir paraît donc simple. À partir de maintenant, les présidentielles américaines opposeront toujours un George Bush à un Al Gore. Côté idées et programme, Bush est encore plus vite que Gore. Il se dit conservateur au grand cœur. Son parti ne crache plus ni sur les Noirs, ni même sur les PD. Où allons-nous? Il veut redorer le blason de l'armée et il est tout à fait pour la peine de mort. Ça, il l'a prouvé en tant que gouverneur du Texas. Le nombre d'ordres d'exécution qu'il a signés fait de lui le plus grand tueur en série de l'histoire des États-Unis. Tout ça est bien beau, mais côté programme, rien de vraiment concret. Si les Américains veulent vraiment voir ce qu'il ferait s'il était élu, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est justement de l'élire. Comme je le disais tout à l'heure, ne gaspillons pas cette denrée rare qu'est la salive à des sujets qui ne le méritent pas. Parlons plutôt de ce qui aurait dû se trouver dans les médias, mais qui ne s'y trouvait pas. On l'a dit et redit, aucun des deux candidats n'a abordé les vrais sujets de fond, même si La Libre Belgique dit exactement le contraire dans son article du week-end. Quels sont ces vrais sujets de fond, ceux qui touchent l'Amérique et qui menacent même la démocratie? Le Soir en parle un tout petit peu, l'espace d'une ligne, je cite, Réforme du financement électoral, constat d'échec de la guerre contre la drogue, etc. Fin de citation, etc. C'est-à-dire, et tous les autres sujets du même genre dont les candidats n'ont pas parlé et que de toute façon on n'aborde pas, sous peine d'être taxé de mauvais esprit. Pourtant, ce sont bien des sujets cruciaux. Le financement des partis, par exemple, les campagnes électorales sont aux États-Unis le prétexte d'une débauche de pognon qui doit bien venir de quelque part. Prenons Gore, par exemple, il se présente comme un écolo. Seulement, pour propager ses idées d'écolo, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et où va-t-il le chercher, cet argent? Entre autres, chez Occidental Petroleum, une grosse boîte pétrolière. En échange, le candidat rend de menus services. En 1996, par exemple, il a obtenu la privatisation d'un champ pétrolifère en Californie et Occidental a pu le racheter grâce à lui. Ce n'est qu'un tout petit exemple du fonctionnement de la grande démocratie américaine. Tout se passe comme ça, mais on n'aime pas le rappeler, ça fait désordre. Autre point sensible, les prisons. Un Américain sur 150 est en prison et dans 10 ans, ce sera un sur 75. La guerre contre la drogue, vaste paranoïa nationale, envoie en prison coupables et innocents sans distinction. Le Monde diplomatique a publié un jour les statistiques de l'emprisonnement aux États-Unis dans un article qui s'intitulait « L'emprisonnement des classes dangereuses ». Petit à petit, c'est bien de ça qu'il commence à s'agir. En plus, les prisons privées sont de plus en plus nombreuses, ça devient une vraie industrie. Évidemment, cette industrie, comme les autres, crache au bassinet. Elle finance les campagnes des deux grands partis. Du coup, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on aborde le sujet et encore moins à ce qu'on renverse la vapeur. Les prisonniers rapportent des gros sous, donc il en faut plus et tout le monde sera content. À Philadelphie et à Los Angeles, les deux villes où ont eu lieu les conventions, il y a eu de grosses manifestations de protestation, un peu les mêmes qu'à Seattle contre l'OMC, c'est-à-dire très organisées et surtout pacifiques. Le seul but des manifestants était d'attirer l'attention sur ces sujets qui fâchent. Seulement, ils ne se sont pas fait entendre, ils se sont fait taper dessus, et pas un peu, par des meutes de flics en armes. Il y a eu des centaines d'arrestations arbitraires, des violences gratuites, bref, tout ce qui fait le savoir-faire d'un bon flic. Mais ça, personne ne l'a dit, ni là-bas, ni chez nous. Si vous ne lisez que La Libre Belgique, par exemple, vous n'êtes certainement pas au courant. Si vous lisez le soir, vous aurez vaguement lu qu'il y avait des manifs où il était question de financement électoral et de drogue, etc. Mais vous n'aurez aucune idée de l'ampleur de l'affaire. Et puis surtout, on ne vous aura pas ennuyé avec les sujets qui fâchent. Voilà en résumé tout le drame d'une presse qui a trop peu de cervelle et pas du tout de couilles. Elle relate uniquement l'histoire officielle, celle des vainqueurs, celle qui se déroule sous les projecteurs et les confettis. Pour terminer, un contre-exemple, pour se persuader qu'il y a quand même encore des gens qui font leur boulot, ce mois-ci, dans un article de Noam Chomsky, Le Monde diplomatique traite les États-Unis d'État voyou. Pas à la légère, non. Le Diplo cite une étude secrète de 1995, tout à fait officielle, qui recommande que les États-Unis exploitent leur potentiel nucléaire pour projeter d'eux-mêmes une image irrationnelle et vindicative au cas où leurs intérêts vitaux seraient menacés. Là, je cite l'étude, il est nuisible de nous présenter comme des gens raisonnables, rationnels et pleins de sang-froid. Et puis encore, ajoute Chomsky, comme respectueux d'enfantillage aussi dérisoire que le droit et les traités internationaux. Là, c'est de nouveau l'étude, que certains éléments du gouvernement fédéral puissent apparaître comme potentiellement fous, impossibles à contrôler, peut contribuer à créer ou renforcer les craintes et les appréhensions de nos adversaires. Fin de citation. Ce passage, vous ne le lirez jamais dans votre presse quotidienne et les médias n'en tiendront jamais compte, même lorsque les États-Unis lancent une guerre. Et pour cause, il n'est pas fourni par le service de presse de la Maison-Blanche. Qui a vu Pas vu, pas pris? Si vous êtes un fidèle du cinéma Nova, il y a des chances que vous ayez vu ce délicieux documentaire qui parle de la télévision française et de ses petits travers. Il y a même des chances que vous ayez vu son auteur, Pierre Carle, en compagnie de Serge Halimi et de notre Jean-Jacques, j'espère ça nous. Sinon, rassurez-vous, je suis là pour vous faire un topo, mais un petit. Pierre Carle est un journaliste impertinent, autant dire un paradoxe ou une rareté. Canal+ lui a un jour commandé un documentaire sur les dessous de la télé française sur le thème pouvoir et médias. Carle a si bien tapé dans le mille qu'il a ridiculisé tout le gratin des présentateurs français. Tout ça le temps d'un petit film de 26 minutes. C'était même si bon et si vrai que Canal a refusé le sujet sans explication très cohérente. Manque de bol, Pierre Carle avait enregistré en vidéo tous ses contacts avec la chaîne câblée et il a mélangé le reportage initial et l'histoire de sa censure pour en faire un film d'1 heure et demie qui s'appelle Pas vu, pas pris. Je ne vais pas vous le raconter, mais sachez que c'est brillant. Évidemment, il n'a pas trouvé de distributeur. Du coup, Charlie Hebdo a monté l'association Pour voir, pas vu, qui a lancé une souscription pour que le film soit enfin visible dans les salles. Aujourd'hui, Pierre Carle reparaît le couteau entre les dents. Cette fois, il a décidé de s'attaquer tous azimuts à l'ensemble des médias français et en particulier aux stars de la plume et du petit écran. En juin dernier, les manifestants de Millau, mais aussi les spectateurs du Nova, ont pu découvrir le numéro zéro de Pour lire, pas lu, un petit mensuel lancé par Carle et ses copains. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça décoiffe. La plume est trempée dans le vitriol et elle n'épargne absolument personne. Le premier dossier fustige les faux impertinents, comme ils les appellent. On y trouve des noms attendus, comme Guillaume Durand, Michel Field ou Carl Zéro, mais aussi d'autres plus étonnants, comme Philippe Val, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Visiblement, Pierre Carle ne cherche pas à se faire des amis. En fait, pour lire pas lu, dites PLPL, c'est plus facile. Donc, pour lire PLPL, pardon, est cruel mais juste. Tout est étayé par des citations, récentes ou plus anciennes, des gens qu'il attaque. Et c'est ça qui est précieux. Les médias, c'est en effet un monde rapide et fugitif, et ceux qui s'en servent comptent sur l'oubli et l'instantané. Heureusement, il y a maintenant PLPL pour nous rappeler ce que disait le même type hier ou bien dans un autre journal. C'est souvent féroce, mais ça fait du bien. Une petite citation pour illustrer. Loin de ne s'attaquer qu'aux médias, PLPL pilonnera l'ensemble de ses adversaires. Des articles seront consacrés au contrôle social, au crétinisme publicitaire et humanitaire, aux ruses du capitalisme, du machisme, du martinobrisme, de l'impérialisme et du jospino-fabucisme. Enfin, vous voyez le genre. Si ça vous plaît, il y a moyen de s'abonner. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site www.plpl.org. Il y a aussi un sommaire du numéro 0 et je vous promets qu'on reparlera de PLPL dans cette émission. Voilà, c'est tout pour cette première fois. On se retrouve la semaine prochaine ou une autre fois pour reparler des mêmes choses, l'actualité et les médias. Au revoir.
Voilà, vous écoutiez avec grand plaisir la première, l'émission même zéro d'Alter Echo, celle
qui n'avait jamais été diffusée.
Ouais. Il y a un petit ton désuet là-dedans, hein, un petit manque d'assurance.
Mais tu avais l'air beaucoup plus jeune à l'époque.
Mais j'étais beaucoup plus jeune. Juste pour préciser, les musiques que vous avez entendues, c'était d'abord Daniel Hélin, Ma mère, sur le premier album de Daniel Hélin, Borlon, Fais main à Borlon. Ensuite, les Rolling Stones avec 2000 Man sur l'album, si je me rappelle bien, j'ai oublié son nom, Sympathy for the Devil, non,
ça... Reprononce un petit peu, je trouve que tu as un accent anglais incroyable.
2000 Man, l'homme de 2000. Ensuite, Violent Femmes avec Just Like My Father, c'est sur l'album 3. Et puis Blonde Redhead, Bipolar, c'est sur l'album... Je ne sais plus, je
la
connais plus du tout le nom.
Quelle maîtrise de
non, non, c'est pas celui-là. Enfin bref. Donc voilà, c'était le numéro 0, toujours sympathique à réentendre. Et effectivement, le reste des émissions a été un peu vaguement à l'avenant. Voilà, ben, on va passer au deuxième sujet de ce soir. Ce sont les Nicolas qui l'ont préparé. Nous avons aussi un invité en studio, je vous laisse.
Thomas Dawors, bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Ben voilà, donc on va discuter aujourd'hui ensemble donc du projet Héron City devenu Héron Plaza. C'est en fait un énorme projet immobilier voulant placer en même temps du commerce, du bureau et du logement en plein centre de Bruxelles. Un projet qui a été critiqué assez fréquemment et qui finalement est sur le point d'être accepté depuis la troisième commission de concertation. Un projet qui suscite beaucoup de polémiques. Alors Thomas, toi tu es un petit peu impliqué, même très fort impliqué dans ce dossier, étant donné que donc, tu as lancé donc, ces maisons et ces squats donc, rue des Drapiers, qui ne sont même plus des squats maintenant.
C'est ça. Donc en fait, plus ou moins à l'époque de la première concertation publique du projet d'Iron City, effectivement, ils appliquaient déjà une stratégie d'expulser tous les habitants de l'îlot.
Est-ce qu'on peut juste situer où se trouve cet îlot?
Oui, donc en fait, il est sur la Toison d'Or, en face de l'Hilton, vraiment entre la porte de Namur et l'avenue Louise, donc dans un quartier assez stratégique.
Et Iron City avait racheté tout un bloc, en fait.
Oui, c'est ça, plus ou moins. Donc ils avaient les trois quarts d'un îlot. Et ils
Qui
avaient notre...
était pour la plupart abandonné, l'îlot?
Oui, donc en fait, effectivement, il y avait dans allez, les 25-26 maisons qu'ils avaient, il y en avait probablement la moitié qui était vide, même un peu plus, quoi. Oui, et donc simplement, on s'est implanté dans un certain nombre de maisons qui étaient vides. Et donc très vite, on a essayé de construire une opposition à ce projet parce qu'il était mégalomane et vraiment, c'était une formule commerciale tout à fait délectable de loisirs à
Et c'était un
l'américaine.
mall à l'américaine,
C'est
fait
ça.
pour être construit normalement à côté des autoroutes, mais en plein centre-ville,
C'est ça,
quoi.
c'est un modèle
Voilà.
effectivement un peu genre Kinépolis ou c'est mall de périphérie, quoi, comme on dit.
Donc le premier projet voulait notamment un complexe avec 24 salles de cinéma. Et donc, comme beaucoup de
50
promos.
mètres carrés quand même aussi.
Et quelle était la proportion de logements dans le projet initial? Ça ne devait pas être énorme.
Je ne sais plus exactement, mais c'était
Le logement du concierge.
trois logements, je pense. Ouais. C'était,
Voilà.
enfin, trois maisons, donc un ensemble quand même un peu plus grand, mais relativement peu.
Donc disparition radicale de logement quand même.
Oui, et par ailleurs, le logement qu'ils proposaient, c'est du logement de luxe, quoi. Donc ça, c'est très clair que c'est finalement un logement qui participe du phénomène de gentrification générale de tout le quartier, quoi.
Et donc
De gentrification, c'est-à-dire
c'est-à-dire
finalement, on pourrait dire d'embourgeoisement de la
ah
population
ouais
locale qui correspond à la plantation toujours plus étendue de l'Europe, par
Et
exemple.
donc l'îlot est délimité par la rue de Stassard, la rue des Chevaliers, la rue des Drapiers, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc, au départ, le promoteur était propriétaire des maisons, mais n'avait pas encore de permis de bâtir. Et vous arrivez entre les deux phases, entre l'obtention d'un permis de bâtir et
C'est
le
ça.
moment où il était déjà propriétaire. Vous occupez ces maisons dont il est propriétaire. Et un des enjeux, enfin, dont le groupe Héron est propriétaire, et un des enjeux de votre combat est évidemment toucher la presse et généraliser un certain discours d'opposition à ce type d'urbanisme. Et justement, un journaliste du Soir a suivi avec beaucoup d'assiduité tout ce qui s'est passé. Il s'appelle
François Robert.
François Robert, c'est lui qu'on a rencontré tout à l'heure, toi et moi, Nicolas, pour lui parler de ces articles qui nous ont semblé très manichéens. Je pense qu'on.
Ben, nous, on a eu un sentiment qu'il avait l'air en tout cas très favorable au projet Héron et très favorable à ce que ce projet aboutisse finalement. Alors, je ne sais pas, vous l'avez, il vous a sûrement approché, en tout cas, il a sûrement parlé de vous. Et je pense que voilà, il y a une dualité entre d'un côté son discours pour Héron et tous les autres aspects à côté dont il ne parle généralement
Ouais.
pas.
Mais effectivement, c'est une problématique complexe et lui, finalement, il agit dans un secteur bien particulier qui est l'immobilier. Et c'est clair que, par exemple, l'occupation de maisons est en lien avec des dimensions qui dépassent la stricte approche
Commercial ou
commerciale et économique qu'on réserve
oui.
à des projets de telle ampleur au niveau urbanistique. Et donc, effectivement, il était tout à fait dans la capacité de comprendre même les logiques. Ne fût-ce qu'en termes de droit au logement, il y a quand même 35 personnes en moyenne qui sont logées depuis 2 ans, des personnes qui sont à faible revenu, bien
Oui,
entendu.
justement, ces 2 ans-là, est-ce que tu pourrais nous les résumer rapidement? Donc, à partir de l'occupation, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui?
En gros, pour essayer de dire, notre groupe, simplement, dans un premier temps, c'était effectivement un groupe de gens qui occupaient les maisons avec une logique de préserver et à la fois de préserver les lieux, de les occuper.
Certaines
Oui,
revendications.
voilà, et en même temps aussi pouvoir articuler une critique un peu correcte du projet. Mais on s'est aussi déplacé, je veux dire, notre groupe a aussi un objectif social qui est bien particulier, qui est de répondre à la crise du logement, en gros, dans un contexte local. Et ce qu'on fait manifestement est de fait par l'occupation des maisons, d'une part, en revendiquant des contrats aussi. Le but n'est pas nécessairement de squatter, le but est de parvenir
À devenir
à améliorer, c'est
locataire,
ça,
oui.
oui, non, aussi améliorer quelque part. L'efficacité dans ces mécanismes de spéculation, pouvoir quand même
Oui, voilà, c'est
occuper de
ça.
façon
C'était pas tout
transitoire.
à coup occuper des maisons parce qu'elles sont là et qu'elles sont libres. Ça a toute une
Ouais, c'est ça. Et
signification
par ailleurs.
dans cet enjeu par rapport à l'implantation d'un énorme complexe commercial en plus dans une zone qu'on aurait pu plutôt préserver.
C'est ça. Et nos objectifs, par ailleurs, étaient aussi un peu extérieurs à l'occupation même de nos maisons et de la défense des contrats de nos voisins qui étaient soutenus par notre initiative. Mais on s'est aussi déplacé justement dans une analyse de la crise de logement un peu partout à Ixelles. Et le but est donc finalement de répondre durablement à cette crise de logement. Et on a notamment entamé des négociations avec le propriétaire et la commune afin que une partie des maisons propriétaires
Les six maisons
c'est ça,
Rustassa.
qui sont dans le même îlot mais qui ne sont pas associées au projet, donc les maisons ne vont pas être démolies. Eh bien, nous, on a, par exemple, avec notre groupe, revendiqué et obtenu en principe que ces maisons soient nécessairement affectées à du logement social, pour autant que le projet passe, quoi, comme condition à l'acceptation du projet. Ce qui ne voulait pas dire que notre opposition était unanimement pour le projet, mais dans les conditions où les
Vous avez
autorités
tenté
auraient accepté
d'aménager
le
le
projet,
projet.
on voulait cette condition. Apparemment, elle a été entendue. Et ça, par exemple, c'est typiquement une dimension dans laquelle François Robert rentre de façon très timide. Et c'est là où c'est en lien avec, finalement, toute une dimension sociale et qui dépasse le discours rentable qu'on a face à des projets urbanistiques de cette sorte, quoi.
Et donc, ces 2 années ont été jalonnées aussi par des tentatives d'expulsion, réussies ou non, un incendie, etc.
J'ai pas compris.
Ces 2 années d'occupation ont été jalonnées par des tentatives d'expulsion, réussies ou non,
Ouais,
un
effectivement.
incendie, enfin, ça a
C'est
bougé, quoi.
ça. C'est ça, ouais. Il y a
Oui, ils
eu.
n'ont pas toujours fait la vie facile aussi, Héron. Il faut dire qu'on est passé quand même d'une attitude assez forte de leur part, une attitude un petit peu plus souple.
C'est clair, c'est clair. Mais bon, disons que la volonté de conciliation de la part des occupants n'était pas toujours la même non plus, le discours tenu. Et donc, je pense que enfin, l'incendie, ça a fait grave et qui fout un flou dans toute cette histoire, dans la C'est
mesure
ça,
où.
donc on sait que l'incendie est de cause criminelle, mais qui a foutu le feu, on ne
Ça,
sait
on
pas
sait
du
pas
tout, on ne
quoi. Je veux
saura
dire,
probablement jamais.
le premier réflexe, c'est de penser au propriétaire, mais ce n'est pas évident,
Ça
évidemment.
se complique par la
Vous
suite.
écouterez François Robert une théorie intéressante
Voilà.
concernant cet incendie.
Et donc dans toute cette problématique compliquée, où la presse aurait pu répercuter tout ce dont tu viens de nous parler, le problème du logement, le problème aussi d'un type de vie qu'on veut organiser dans certains quartiers, est-ce qu'on veut faire encore une fois une espèce de rue neuve de tout le centre de Bruxelles, une énorme rue neuve, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Ben, de tout ça, François Robert a surtout retenu une opposition chancre face à... C'était soit le champ, donc des maisons qu'on laisse pourrir ou qu'on abandonne à des punks, soit un superbe immeuble bien tenu et rentable. Face à ce discours de François Robert, on a tenu à le rencontrer et
Voilà.
discuter avec lui de cette dichotomie simpliste où il rejetait les...
Voilà, il faut quand même
Ce
dire
serait,
qu'on
oui,
s'est
ce serait
basé à la
sympa
base.
aussi de parler de l'article qui vous a
Voilà,
fait
il faut quand même
bondir.
partir à la base de ce
Il y en
qui
a
nous a
fait
vraiment fait bondir.
plein
C'est
des
un.
articles et c'est toujours un peu dans le même ton. Mais...
C'est ça, c'est qu'il a vraiment suivi le sujet, c'est toujours dans le même ton, et c'est un article la semaine dernière, du mercredi 26 juin 2002, qui dit, voilà, oui à Aéron City, ouais, oui à Aéron Plaza sur la Toison d'Or, la
Point
commission de. Point
d'exclamation,
d'exclamation,
c'est le titre,
attention,
c'est le
la
titre.
commission de concertation rend finalement un avis favorable au projet britannique. Finalement, enfin un avis favorable, et il commence son article Aéron Phénix de la Toison d'Or. Et dans tout l'article, on se rend compte que, ben voilà, il a vraiment envie que ce projet aboutisse, il est sur le point d'aboutir. Et voilà, mais je pense que le plus simple, c'est de l'écouter, et après ça, on en discutera.
En fait, je pense pas avoir pris l'attitude de dire moi je suis pour ce projet plutôt que d'être contre. C'est presque un calcul mathématique. Les habitants, ils se sont réunis, ils ont créé une structure qui s'appelle d'ailleurs toujours XL Nord. Ils ont collaboré, ils ont travaillé et ils ont dit ben nous ce projet, on est d'accord, on est pour. Les commerçants ont fait exactement la même chose. La commune a fait exactement la même chose. Alors on a donc trois structures qui sont bien claires, qui sont bien ciblées, qui sont bien définies, qui ont travaillé de concert avec un promoteur, ce que j'ai jamais vu à Bruxelles. Et donc là, on a quelque chose, je dirais, d'un petit peu inédit, et je l'avoue, qui me plaît. Maintenant, à côté de ça, il s'est passé ce que l'on voit souvent à Bruxelles, c'est que un projet se heurte à un problème patrimonial. Alors, ce problème patrimonial, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la défense dans ce cas-ci même, de plusieurs immeubles. Alors, évidemment, on peut se demander qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est plus important dans un cas pareil? Est-ce qu'il faut privilégier le patrimonial ou bien il faut privilégier le consensus social? Alors, dans ce cas-ci, ben, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'était un.
Je suis tout à fait d'accord, je vous interromps, ce n'est pas un problème de l'avoir décidé, c'est plutôt une façon dont vous présentez. Par exemple, moi je retrouve la première phrase quand je parle de votre côté parfois un peu partisan, première phrase de l'article donc de la semaine passée, Héron, virgule, phénix de la Toison d'Or. On n'a pas l'impression qu'il y a une nuance, et parce que vous parlez Quelle autre solution pour ce quartier? Mais qu'est-ce qui a amené les chancres dans ce quartier, si ce n'est une certaine politique de spéculation? Et vous parlez d'un accord avec les comités de quartier qui étaient amenés à discuter pour aménager un projet qui, de toute façon, allait se faire à partir du moment où Héron était propriétaire de toutes les maisons. C'était plus compliqué que ça. Donc, vous auriez pu tout à fait faire quelque chose de beaucoup plus nuancé que Héron, virgule, phénix de la toison d'or.
C'est très simple. Je le dis à ce moment-là parce que je connaissais l'information et je savais que la commission de concertation avait dit oui. À partir du moment où la commission de concertation a dit oui, même si ce n'est pas encore officiel, hein, je veux dire, même si le texte officiel n'est pas encore publié, à partir du moment où c'est oui, je veux dire, les choses sont faites. Mais je n'aurais jamais écrit ça il y a 3 semaines ou 1 mois. Hein, je veux dire, tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. À partir de ce moment-là, on peut le dire. Je veux dire, on a un projet, on sait qu'il est passé, on sait qu'il a été adopté, on sait que les permis vont être délivrés, on sait ce que ça signifie, on sait que ça va apporter autant de commerce, on sait que les habitants sont d'accord. Donc à ce moment-là, on peut le dire. Mais j'aurais pas écrit ça il y a 1 mois, par exemple.
D'un autre côté, par rapport à ça, est-ce que vous ne pensez pas que ce projet suscite des questions qui n'ont peut-être pas été posées dans certains articles, comme par exemple le problème que le quartier risque d'être dualisé parce que c'est un projet de justement de commerce de qualité et de haut de gamme? C'est un petit peu la condition qu'ont demandé les commerçants de cet axe-là pour la construction donc de ce projet, mais ça va dualiser par rapport au niveau social du quartier. Ça peut aussi risquer des problèmes dans le sens que n'y a-t-il pas trop de commerce dans cette zone-là de Bruxelles? Est-ce que vraiment la question ne pose pas d'autres, ne suscite pas d'autres interrogations à plus long terme?
Mais si, ça pose d'énormes problèmes. D'abord, pour répondre immédiatement à la question, est-ce qu'il y a trop de commerce? Ben, je dirais oui, il y a trop de commerce à Bruxelles. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que dans certaines zones, il y en a trop systématiquement. Dans un quartier comme celui-là, d'abord, quand on parle de dualisation, faut être clair. Dans ce quartier-là, la dualisation est déjà faite depuis un certain temps. Ça, c'est
Pourquoi
clair.
l'accélérer alors?
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a à l'arrière, à la rue Stassard, il y a, je crois, c'est 8 ou 10 maisons qui appartiennent à Iron. Et cette association n'a quand même pas été négligée parce qu'il y a une ASBL qui va s'appeler, je ne sais plus le nom, qui va, par convention, gérer ces maisons et en faire du logement à caractère social. Et ça, c'est une démarche qui est tout à fait originale, hein, chercher
Mais ce n'est
dans
pas une démarche qui est c'est pas une impulsion de Héron, c'est la conséquence de la gestion d'une crise qui a été provoquée par des groupes de gens qui habitaient là et qui ont fait pression sur Héron, qui doit du coup aménager et perdre un tout petit peu de ses bénéfices pour.
C'est le fruit, mais c'est ça qui est de bien dans les crises, c'est que bon bah Héron a fait 2 tentatives qui ont lamentablement échoué, et ils ont bien compris que s'ils voulaient créer quelque chose de ce bien, bah il fallait pactiser avec les gens. Quitte pour eux à pactiser avec le diable, hein, mais il fallait collaborer avec les habitants, et ils l'ont fait.
Mais c'est plus des aménagements quand on constate ce qui a peut-être été donné. Oui, c'est vrai que c'est novateur à Bruxelles. C'est la première fois qu'un promoteur dialogue avec le politique ou avec des riverains, des commerçants. Mais ça semble surtout être des mesures d'aménagement, comme sur le chantier, qui aurait par exemple pas de chantier la nuit, sur ces logements sociaux. Mais de toute façon, le projet en soi ne sera jamais remis en cause par Héron. Donc, ils ont peut-être un petit peu assoupli leur position, aménagé les dossiers, mais est-ce qu'ils ont vraiment, l'optique reste la même en fait?
Et vous savez, bon, on peut toujours rêver, hein, on peut se dire, mais au fond, on aurait très bien pu faire, je ne sais pas moi, aller à un complexe de logement social, pourquoi pas, à la limite. Mais il faut savoir que légalement, ça n'est pas possible non plus. Il y a un PRAS à Bruxelles qui délimite des fonctions, et il y a dans l'îlot Héron, il y a une fonction commerciale qui est importante. Donc de toute façon, il ne faut pas rêver, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus.
C'est sûr que c'est pas si simple, mais c'est précisément un petit peu ce qui me chiffonnait parfois à la lecture de vos articles. C'est ce côté où tout avait l'air très simple, où on a un quartier de chancre, et Héron nous propose la solution, et en plus, avec une concertation jamais égalée. Vous écrivez, les Britanniques décidèrent de travailler en parfaite collaboration avec les habitants. Mais c'est pas du tout le sentiment des habitants. Les habitants ont pu aménager un projet à partir du moment où Héron avait la propriété des maisons. Je veux dire, il fallait aménager ce bazar. Soit on laisse pourrir, soit on essaye tout de même de faire passer quelques-unes de ces revendications. C'est pas du tout. Vous pouvez appeler ça une parfaite collaboration. C'est l'image que vous faites d'une parfaite collaboration.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la façon dont travaille l'habitude, enfin, quand il y a des projets immobiliers à
Mais ça
Bruxelles,
n'aurait pas
la
une parfaite
façon.
collaboration pour autant, à mon sens.
Qu'est-ce que c'est? Bon, allez, qu'est-ce que c'est ce que j'appelle une parfaite collaboration? C'est qu'il y a des habitants qui se sont réunis en groupement et qui ont dit, ben, enfin, il y avait notamment, et il y a toujours d'ailleurs, il y avait des squatters. Eh bien, c'est la première fois, excusez-moi, hein, mais c'est la première fois que je vois des squatters qui se mettent d'accord avec un propriétaire, qui signent une convention à titre précaire avec un propriétaire, qui se mettent d'accord sur le moment où ils vont partir, qui se mettent d'accord sur les conditions de départ, enfin c'est quelque chose.
Après combien de tentatives d'expulsion?
Mais les tentatives d'expulsion, mais ça, les tentatives d'expulsion, elles étaient le fait du précédent projet.
Bruxelles, on est dans une situation qui est tellement incohérente au niveau urbanistique qu'on a une ville qui ne ressemble à rien, qu'on a des promoteurs qui ne se soucient pas en général de la réalité d'un quartier et des politiques qui courent après les promoteurs. Pour une fois, on est arrivé à un jeu normal, mais ce n'est pas non plus la panacée universelle. Ce ne sont que quelques aménagements. Et moi, j'ai un petit peu l'impression que cette troisième concertation devait de toute façon réussir parce que de toute façon, on arrive. Pourquoi pas en faire une quatrième? Mais j'ai l'impression que tous les acteurs, que ce soit commerçants, riverains, ou autres, ont accepté
Il y a
finalement.
quelque chose que vous devez bien comprendre. Et je sais bien que quand on est en dehors comme ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas bien. Si c'était simplement le type le puissant qui a des sous et le petit qui n'en a pas, une confrontation et qu'on arrive à un modus vivendi, hein, que chacun de. Ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que quand on a. Qui est propriétaire de ce truc? C'est Aaron. Lui, il connaît exactement, il sait ce qu'il doit faire pour que ce soit rentable. Si c'est pas rentable, il ne le fera pas. Et il a, je veux dire, toute notre société est basée sur la propriété privée. Il faut bien s'en rendre compte. C'est que si il ne trouve pas son intérêt, ben ce projet, il va pas le faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va dire, moi j'ai essayé 3 fois. Eh bien maintenant, débrouillez-vous. Et alors, il va continuer ses actions en justice contre les rares.
Évidemment, évidemment.
Et là, on va arriver à un champ dans toute
Voilà.
sa splendeur, dans toute son horreur. Mais le problème, c'est que c'est pas imaginable dans le projet qui est fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ou bien ça reporte les échéances à plusieurs années, avec de grands risques, hein. Parce que vous savez, il y a 2 ans, quand on a mis le feu dans une maison et qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté par la fenêtre, je veux dire, c'est ce genre de drame-là qu'on va devoir gérer. C'est ça le problème.
Et quel est le rapport avec les travaux se retardent et les incendies criminels?
Mais le problème est très simple, c'est que vous vivez dans un environnement dégueulasse, absolument dégueulasse. Vous n'allez rien respecter. Vous vivez dans un milieu, dans un endroit qui est beau, etc. Ben, instinctivement, vous n'allez pas jeter le papier. Tandis que si vous vivez dans un truc dégueulasse, si vous vivez dans un tout dit, vous dites ben, qu'on mette le feu ou pas, qu'est-ce que ça change?
Donc, quelle est votre hypothèse sur la cause de l'incendie? Alors, je comprends pas, moi, le rapport avec le contexte dégueulasse et l'incendie.
Mais tout simplement que quand on a un quartier qui est complètement délabré, les gens qui y vivent, tout le monde est malheureux, tout le monde est profondément malheureux. Alors comment voulez-vous qu'on ait du respect pour quoi que ce soit?
Quand vous écrivez, je reviens avec cette phrase, mais elle m'a. Héron, phénix de la toison d'or, vous n'avez pas l'impression d'être promotionnel quand vous dites ça.
Je vous dis, je suis. Mais non, je suis pas promotionné à partir du moment où c'est fait. C'est fait. C'est fait. Et d'abord, pour être tout à fait honnête, Héron, Phénix, c'est simplement un jeu de mots sur l'oiseau. C'est tout. Bon.
D'accord, mais phénix, c'est très très compliment, c'est un très grand compliment. Phénix, c'est somptueux.
Mais je vous dis, je n'aurais pas écrit il y a un mois ou il y a 6 mois.
Alors Thomas, des réactions face à ces propos?
Là, je suis vraiment outré, quoi, par
On voit le fond du mec là
ouais,
maintenant.
certaines, surtout vers la fin, là, il
La
m'a.
fin, l'histoire de finalement un chancre n'amène que l'instabilité, les incendies et.
C'est ça, il reproduit pratiquement le discours de Yang Dardoit, il avait fait à toute boîte suite à toute boîte qu'on a fait Donc
plus
De
ou moins
Jong
contre lui.
Dardoit, un merveilleux ancien bourgmestre
PRL de Dixelles. Et
d'Ixelles, qui serait bien arrivé en carrosse à la commune si on l'avait laissé faire.
c'est ce
C'est
que
ça.
le
Et
surcroît.
qui disait, oui, je me suis toujours opposé au chancre qui amène squat, vandalisme et malpropreté, quoi.
Ah oui.
Et donc assimiler les deux. Et il vient de faire exactement la même chose. Il dit, dans un environnement dégueulasse, on s'en fout, on n'en a rien à foutre à la limite de mourir dans
Parce
l'incendie,
que
quoi.
tu es
C'est ce qu'il a
malheureux.
dit, quoi.
Ouais.
Alors qu'on peut rappeler quand même que Héron payait un type pour arracher des radiateurs et faire pou et de
C'est
temps en temps
clair.
enfoncer un toit pour faire pourrir justement et créer cette situation de chancre.
Ouais, enfin, en tout cas, il laissait faire, quoi. Mais même, je veux dire, structurellement, il n'a rien fait pour empêcher.
Alors, il paraît que donc Héron a même été capable, cette fois-ci, pour la troisième concertation, de signer un pacte avec le diable. Et le diable, c'est vous.
Ouais, c'est ça. Et alors, là, je trouve aussi que c'est... Enfin, finalement, c'est peut-être le fond de la critique que j'ai à faire à François Robert aussi, c'est que, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, il n'a pas de considération, enfin, il n'a pas de prise sur les politiques sociales, quoi. Je veux dire, il ne peut pas les intégrer, quoi, manifestement, dans son discours. C'est-à-dire, à la fois dans la face, dans le regard qu'il pose sur les squats, où finalement, il nous assimile à quelque chose de dégueulasse, et par ailleurs, qui prétend qu'on n'en a rien à foutre, alors que précisément, on est plutôt dynamisateur, enfin,
Oui.
catalyseur d'une certaine dynamique locale, et il ne veut pas le reconnaître. Et ce qui est marrant, c'est que par contre, il peut le reconnaître, et ça montre toute sa vision de la question sociale. Lorsqu'on a accueilli une famille manifestement précaire, expulsée ou en tout cas pas accueillie par les foyers XLOI, il a prétendu qu'on avait déjà un contrat d'occupation avec le propriétaire, alors qu'on n'en avait pas. Et il l'a fait probablement parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer que les squatteurs en tant que tels pouvaient avoir finalement des
Ah
visées
donc
sociales et d'intérêt général aussi, quoi.
la seule fois où il a consacré quelques lignes à vos actions, c'était pour les mettre en rapport avec une certaine largesse du propriétaire. Et en l'occurrence, il s'était trompé puisque le propriétaire n'avait absolument rien concédé et pas du tout appuyé
Non,
cette
enfin,
démarche
ben,
d'aide.
disons qu'il était en train de le faire déjà, c'était sûrement pas grâce à lui, ça c'est sûr. Et par rapport à l'argument que tu lui tenais tout à l'heure, à savoir hein, le phénix, etc., c'est clair qu'il n'a jamais encensé la valeur de ce qu'on avait obtenu, par exemple. Il dit que c'est très bien le consensus qu'il y a eu entre les gens. Et effectivement, je pense que notre groupe, par exemple, s'est attelé à aussi avoir une approche pragmatique au cas où le projet passerait, parce que c'est toujours comme ça. Hein, on s'oppose au projet, et si le projet passe, y a rien qui est retenu, et c'est un gros projet puant qui passe, quoi. Et là, on a obtenu une charte des chantiers, il ne l'a jamais mentionné.
Donc,
Pourtant, il est très pragmatique dans son
j'en ai
approche.
parlé de sa charte de chantier,
Ben,
là,
c'est ça, j'ai
il a
entendu
pas
ça.
tilté, quoi.
Mais en même temps, pourtant, c'est une dimension pragmatique qui reste dans la sphère de ses compétences, c'est-à-dire l'urbanisme, la rentabilité et compagnie. Et même ça, il ne l'aborde pas. Par ailleurs, je dis l'aspect social, c'est vraiment le minimum, quoi. C'est ce que le politique pourra reconnaître, qu'il arrivera à lui-même faire passer, quoi.
Alors, il y a
Mais
quelque chose
jamais
que je
plus.
comprends pas au début de son espèce de développement. Il dit, ben voilà, il y a une opposition entre projet patrimonial et consensus social. Alors là, déjà, c'est pas très clair. Moi, cette opposition, je la comprends pas trop. Et alors, il parle de consensus social, mais à quel point? Parce qu'est-ce que c'est un consensus social au sein d'un quartier bourgeois qui va rester bourgeois ou consensus social par rapport à la structure d'un quartier qui est un petit peu périclitant, quoi.
Mais bon, par rapport à ça, la position de notre groupe, elle était probablement à essayer de rendre le plus social le contenu de ce consensus, quoi. Hein? Donc, si je dis ça, c'est que par exemple, on a parlé des maisons rue de Stassard, hein, il en a même grossi le nombre,
Oui, on a donné 10,
et
contre
il y en
6.
a en fait 6. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train d'essayer de négocier pour que, enfin, c'est a priori en très bonne voie, pour que ces maisons deviennent des logements sociaux et que par ailleurs. Une coopérative émanant du même contexte puisse rénover elle-même les logements et assurer la continuité des logements par rapport aux personnes qui sont là pour le moment. Mais disons que la question patrimoniale, ce qui se passe, c'est que c'est clair que c'est un argument qui a une plus grande adhésion dans les hautes sphères, je dirais, de la société et par rapport à des enjeux plutôt sociaux, par exemple de mixité sociale. Hein, on veut bien accepter le discours de la mixité, mais si ce n'est pas dans l'îlot en question. Et donc là, par rapport à ça, c'est clair que nous, on a eu des revendications. Elles sont à moitié satisfaites. Mais donc, effectivement, je pense qu'il y a eu une forme de consensus social. Mais dans sa nature, si, il n'y avait pas eu les fameux squatteurs dont il parle,
Les squatters, comme il dit.
je pense que la nature de ce consensus, elle aurait
Mais
été
voilà,
inexistante, ça aurait été comme d'habitude. Les intérêts des commerçants ne sont pas contraires à ceux des promoteurs
voilà.
dans une certaine mesure et on enterre l'affaire.
Moi, c'est ce que je tentais de lui expliquer. Et à un moment, en off, en tout cas, je lui dis, ben, est-ce que finalement, voilà, les commerçants ont accepté, mais ils ont accepté le projet à partir du moment où leur commerce n'était pas menacé. Donc c'est uniquement ça leur intérêt. L'intérêt des promoteurs est celui de gagner de l'argent, le plus d'argent possible, en construisant un bâtiment. Et puis bon, il y a votre intérêt à vous, qui étaient plus ou moins satisfaits, car vous avez réussi, comme tu dis, ben voilà, à mettre en point six logements. Mais finalement, il est en train de totalement mettre sur le côté tout un aspect, en tout cas, du dossier, qui n'a même pas l'air de maîtriser. C'est ça qui est
Ouais,
terrible.
c'est ça, mais c'est vrai qu'en fait, autant il anticipe, hein, il nous a dit tout à l'heure que à partir du moment où lui, dans les coulisses, savait que le politique allait accepter le projet, alors que la date officielle, c'est forcément une réunion collégiale qui en décide à la commune, et il nous dit c'est bon si on sait que le fond, c'est OK. Par rapport à ça, je veux dire, nous, on a eu des tas d'avancées aussi dans dans nos revendications sociales, et il les a jamais anticipées, il les a jamais appuyées à l'avance, il les a toujours amenées au moment où elles étaient totalement entérinées. Je dis sauf cette histoire qu'on avait soi-disant une convention simplement parce qu'on accueillait une famille et qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'on accueille une famille sans qu'on ait un acte de solidarité sans avoir un contrat légal, quoi.
Nico?
Ouais, peut-être pour conclure, parce que je pense qu'on arrive à la fin. François Robert, donc le soir avec lui et toute une partie de l'opinion publique, puisque finalement c'est ça son travail, le soir est un journal très large, donc sa conclusion à lui va être celle d'une bonne part de l'opinion publique. Annonce avec l'arrivée du Phénix, annonce ça comme une délivrance pour le quartier. Quelle serait ta conclusion à toi? Finalement, Héron passe, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qui aurait pu se passer si ça n'était pas arrivé?
Ouais, ce qui aurait pu se passer, je sais pas, je pense que quelque part, moi, je me référerais vite à une autre histoire, à l'îlot Stevin, où,
Ouais.
à l'époque où des squatteurs sont implantés dans l'îlot pour aussi militer face à la destruction d'un îlot de patrimoine ancien. Au début de l'action, ils s'opposaient à la construction d'immeubles, de tours entières avec parking intérieur. 15 ans plus tard, ce qu'ils ont obtenu au final, c'est que les maisons soient revendues individuellement à des gens qui ont les moyens de les acheter, bien entendu. Alors c'est pas mieux, et c'est la seule chose qui a été finalement obtenue, c'est de préserver le patrimoine. Et je pense qu'effectivement, on serait peut-être arrivé dans le même genre de truc. Mais sur l'aspect social, je veux dire, on a obtenu quelque part le maintien d'une certaine mixité. Et c'est pas garanti que le report et l'annulation de ce projet auront amené plus, mais on peut toujours imaginer ça. Donc, c'est une question qui reste ouverte, quoi. Moi, a priori,
Mais que
moi, je suis pas
t'inspire
sûr. Moi, le projet,
l'arrivée, finalement, la conclusion
ben,
de l'arrivée de ce complexe?
ça m'emmerde, mais je veux dire, je dis nos objectifs et ce qui, moi, m'anime en tant que citoyen. Je crois que je me suis pas mal battu contre ce projet. Maintenant, s'il passe,
Voilà, il faut
il
passer à autre
passe,
chose.
et je veux dire, on passe à autre chose. En même temps, c'est clair que enfin, je suis pas satisfait du fait que ce projet va passer, ça c'est
Et
clair.
si on se laisse
Pour ce qu'il
rêver, ça...
représente en termes commerciaux, en termes de modèle de société, de modèle de consommation, ça me plaît pas. Ce qui est dérangeant dans cet article, peut-être vraiment pour terminer, donc comme tu disais, Nicolas, c'est le soir est un des journaux les plus lus en Belgique, et voilà, toi maintenant, pour terminer, quand tu lis un article pareil, vraiment... C'est quand même une mauvaise pub pour vous. En tout cas, c'est une non-publicité pour tout cet aspect-là du dossier.
Ouais.
Comment arriver à faire avancer finalement votre cause, votre combat, si déjà, voilà, au niveau de la presse, ça passe pas?
Ouais. Bah, je pense que vraiment, effectivement, on peut en vouloir à François Robert parce que individuellement, autant il suit très bien l'actualité parce qu'il l'anticipe, il nous l'a montré. Eh bien, il n'a jamais vraiment essayé de prendre au sérieux finalement ce qu'on faisait. Je veux dire, autant heureusement quand même pour le soir, il y a quand même d'autres articles qui sont sortis par d'autres journalistes qui sont eux plus sensibles aux approches, aux aspects sociaux et même culturels qu'on développait dans l'îlot. Donc de ce point de vue-là, je pense que si je devais juste m'en tenir à François Robert, ben on vivrait dans un monde bien triste et j'espère que ce ne sera jamais le cas.
Il faut dire quand même qu'il a été invité par Héron à Londres.
Voilà, bah je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vais demander au Deux Nicolas de chanter le générique de fin pendant que
Ah,
je les
tu l'as
annonce.
pas non plus.
Mais
Non.
non, je n'ai amené aucun CD, j'ai tout oublié chez moi.
Je me rappelle pas du tout du
générique. C'est lamentable. Bref, c'était donc Alter Echo. Tu peux continuer à chanter dans
C'était
le
on peut
Alter
signaler
Echo.
aux auditeurs que si jamais ils croisent donc un phénix sur leur droite quand ils passent Avenue Louise, qu'ils n'hésitent pas à se vider la vessie, finalement, ça peut toujours le faire pousser plus haut, peut-être.
Bon, on aurait mieux fait d'amener les disques, hein.
Ouais.
Donc, Alter Echo se termine pour cette semaine. Première émission du régime d'été avec rediffusion,
plus
mais
comique,
aussi
comme vous remarquez.
Quelques nouveaux sujets. Rediffusion, évidemment, vendredi à 14h sur Radio Campus 107.2. Et n'oubliez pas d'aller visiter le site quand il sera réactualisé. C'est l'Arlésienne. www.collectif.net/alterecho en un seul mot et avec CH. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout et à la semaine prochaine.
Salut.